Le journal Anthony Montandon, bonsoir.
Bonsoir. Repousser d'un mois l'ouverture d'une patinoire n'est pas sans conséquence pour les utilisateurs. Le club des patineurs de Moutier, comme celui de hockey sur glace, doivent désormais trouver des solutions pour ne pas entraver leur préparation après l'annonce de Prévost Glace. La région n'a pas été épargnée par la pandémie de peste. On parle d'un événement qui s'est déroulé au Moyen-Âge, mais dont les répercussions sont encore visibles aujourd'hui. Une conférence se tiendra demain à Tramelan pour évoquer cet épisode. Elle veut réunir autant de monde qu'il y a 4 ans. L'Alliance Climatique lance un nouvel appel à manifester pour l'environnement. Près de 100 000 personnes avaient rallié Berne dans ce but en 2019, mais cette année les ambitions sont moindres, nous expliquera l'une des organisatrices. La météo de demain, quelques nuages pour être présents par endroits, mais globalement le temps sera bien ensoleillé. Les températures grimperont au maximum jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Les utilisateurs de la patinoire de Moutier font face à des défis d'organisation. Vendredi dernier, la société Prévost Glace a pris la décision de ne plus ouvrir ses installations avant la mi-octobre au lieu de la mi-septembre dès la saison prochaine. Un impact organisationnel pour ses utilisateurs mais aussi financier. Le club des patineurs de Moutier avoue que louer des glaces ailleurs durant un mois serait problématique pour ses finances. Du côté du HC Moutier, on craint de ne pas trouver de place ailleurs à l'approche du championnat. Il faudra donc chercher des solutions. Le responsable technique du HCM, Hugo Lehmann.
Au niveau finance, on trouvera des solutions. Mais je pense qu'aussi, il faut commencer à discuter aussi avec Delémont qui a une patinoire vraiment chaude. Nous, on a de la glace maintenant. Il faisait chaud la semaine passée. La glace est relativement de très bonne qualité. Donc, avec les installations qui ont été transformées, ça fonctionne bien. Mais je comprends Prévost Glace, les coûts d'exploitation sont énormes. Et puis ça, je pense que les locataires doivent certainement trouver des solutions financières pour aussi financer ces coûts supplémentaires. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit commencer à trouver des solutions, voire un arrangement avec les mots aussi, qui, je pense qu'ils pourraient commencer aussi plus tard, même plus tard que nous, de faire la glace. Ça serait une bonne chose, et puis dire voilà, dans les deux premières semaines d'octobre, c'est réservé 100% aux équipes qui ont besoin de glace, qui ont besoin d'entraînement, tout ça, et puis trouver des solutions financières. Mais ça, il faut se mettre autour d'une table et puis, puis en discuter.
Un dossier réalisé par Loïc Georgien que vous retrouvez sur rjb.ch. La santé est une affaire collective, c'est ce qu'a mis en lumière la pandémie de peste au Moyen-Âge. Le fléau a décimé les populations, il a aussi permis de faire avancer la science. L'arc jurassien ne fait pas exception, des charniers ont été découverts récemment dans la région. Alain Bosson est historien spécialisé dans l'histoire de la médecine. Il détaille les progressions sanitaires attribuables à la peste lors d'une conférence. Elle aura lieu demain au Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan.
On peut vraiment créditer à la peste et surtout à la réaction contre la peste la mise en place de politiques sanitaires. Avant le XIVe siècle, vraiment, la santé est une affaire individuelle. On avait oublié ce que c'était que des épidémies capables de tuer des pourcentages à deux chiffres de la population. On avait oublié ça. Et à partir donc du XIVe siècle, des mesures très familières à nos oreilles, comme confinement, isolement des malades, tout simplement aussi la mise en place dans nos régions de médecins des villes, des embryons finalement d'Office fédéral de la santé publique, ces choses-là sont accréditées à la réaction des populations face à la peste. Donc effectivement, la peste a permis aux sociétés qu'elle a traversées justement de se constituer sur le plan donc sanitaire.
Et d'après l'historien Alain Bosson, en 1628, un quart de la population biennoise est décédée des suites de la peste. Le réalisateur biennois Laurent Wyss reçoit le prix du cinéma bernois. La section encouragement des activités culturelles du canton de Berne et Pro Cinéma Berne ont récompensé cette année un long métrage et deux documentaires. Parmi ceux-ci, Peter K. Seul contre l'État, un long métrage de Laurent Wyss sorti fin 2022. Le bernois Manfred Lirti, qui incarnait le personnage principal, avait reçu pour ce rôle le prix du cinéma suisse du meilleur comédien. Une nouveauté pour la rentrée universitaire ce matin à Neuchâtel. L'institution met à disposition gratuitement des protections hygiéniques dans toutes ses facultés. Un geste apprécié par les étudiantes. Quant aux étudiants, ils ont aussi leur avis sur la question. Claire Viget est allée promener son micro à la faculté des lettres.
Je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que des fois on n'a pas forcément prévu sur nous et des fois ça arrive par surprise. Puis je pense aussi pour les gens des fois qui sont un peu en difficulté financière, ça peut toujours aider d'avoir une ou deux protections gratuites comme ça qui sont données. Je pense que ça devrait être étendu à tous les établissements.
C'est un besoin de base, donc c'est aussi normal qu'on puisse le couvrir d'urgence s'il y a des besoins.
Je suis pas tellement concerné, mais je trouve que c'est une bonne chose.
J'étais pas au courant qu'il y avait des protections hygiéniques dans les toilettes, mais je pense que c'est une bonne idée, que ça peut toujours rendre service.
C'est vrai que c'est hyper utile et des fois ça peut arriver à tout moment et c'est clair que ça peut nous sauver la vie.
Ça va en aider plus d'une et je trouve ça chouette qu'ils mettent ça en place.
Je pense que c'est utile et je n'ai jamais utilisé ici, mais je pense qu'il peut me servir.
Vous venez du Tessin ?
Oui.
Au Tessin, ça existe, ce genre de choses ?
Oui, dans mon lycée, il y avait déjà des choses comme ça.
Est-ce que vous étiez au courant ?
Pas du tout, alors. Je n'étais pas au courant, je viens de l'apprendre. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, ouais.
Pourquoi ?
Si jamais on en a besoin sur le moment et qu'on n'en a pas forcément, on n'en a plus, ben il y a moyen d'en trouver toujours.
Je pense que c'est toujours une bonne chose d'élargir la question et de faciliter un accès à tout le monde à ça, quoi.
C'est super pratique, ça nous évite d'être sous stress et... Enfin, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais au gymnase et il y en avait gratuitement et ça m'a sauvé plusieurs fois.
J'ai pas grand-chose à dire à part que c'est génial et que c'est une super bonne mise en place pour les gens qui sont un peu plus précaires et solidaires, donc c'est bien.
La précarité menstruelle, c'est une réalité ?
Oui, c'est une réalité. C'est vrai qu'un paquet de serviettes hygiéniques, ça coûte quand même relativement cher, mine de rien.
Avoir attendu jusqu'en 2023, c'est normal, hein ?
Non.
C'était le moment que ça arrive, hein ?
Oui, je pense que on est dans une société où les choses changent et bougent. Et du coup, c'était vraiment le moment que ça se mette en place.
Un reportage de Claire Viget. L'université de Neuchâtel a enregistré d'ailleurs cette année un record d'admission, plus de 2000. C'est presque 12% de plus par rapport à 2022. Et c'était aussi la rentrée, hein, à la Haute École Arc. En début de semaine, elle accueille 535 nouveaux étudiants pour un total de 3000. Le projet d'ordonnance prévoyant d'abattre jusqu'à 70% des loups suisses ne respecte ni la Convention de Berne, ni la volonté populaire. C'est l'avis aujourd'hui des défenseurs des animaux. Dans une lettre ouverte à Albert Rösti, ils exigent un nouveau texte et une consultation élargie. Co-signée par 26 associations, la lettre déplore que la proposition d'ordonnance de l'Office fédéral de l'environnement ne respecte pas les garanties faites dans la révision de la loi sur la chasse. C'était il y a 4 ans, 100 000 personnes s'étaient réunies dans les rues de Berne et sur la place fédérale pour manifester en faveur du climat. Le 30 septembre prochain, l'Alliance climatique tente de remobiliser pour une nouvelle manifestation à 3 semaines des élections fédérales. L'Alliance des mouvements qui portent l'environnement est plus large qu'en 2019, mais l'ambition se limite à faire converger 20 000 personnes à Berne. Les temps ont changé, constate Léonie Lalive de l'Alliance climatique.
C'est clair que le mouvement climat est un mouvement large avec différentes formes d'action et différentes stratégies. Pour nous, on a redécidé de faire une manif parce que c'est pour nous une bonne opportunité de tisser des liens et de montrer la force du mouvement. Et puis les manifestations ont toujours fait partie de la démocratie. En 2019, c'était aussi déjà l'Alliance climatique qui avait organisé cette grande manifestation. C'est de nouveau l'Alliance climatique et on a essayé justement de rassembler plein de personnes différentes pour montrer aussi les différentes personnes qui sont touchées par la crise climatique. Le but, c'est vraiment que ce soit un lieu de rencontre et pas que ce soit une manifestation seulement pour les élections, parce que pour nous, c'est aussi important que le mouvement continue après les élections et en dehors de la politique institutionnelle.
Plusieurs syndicats seront de la partie le 30 septembre à Berne pour la manifestation pour le climat, dont l'organisation paysanne Unitaire. Pourtant, l'agriculture est un gros producteur de CO2, le secrétaire politique d'Unitaire, Antonio Silva.
On vient montrer que pas toutes les formes d'agriculture ne se valent et qu'en effet, il y a des systèmes industrialisés qui génèrent d'énormes pollutions, mais surtout qu'il y a des formes d'agriculture qui sont beaucoup plus résilientes que les systèmes industrialisés. Je pense notamment à l'agriculture paysanne qui, elle, est beaucoup plus diversifiée. Et donc, à travers le développement d'autres pratiques agricoles, on va pouvoir inverser la tendance et continuer à produire tout en protégeant la biodiversité. Actuellement, dans le débat sur la politique agricole, on oppose ces deux visions. On oppose protection de l'environnement et production alimentaire. Et nous, on estime que les deux sont faisables. Mais tout cela, il va falloir un peu changer les paradigmes agricoles. Et surtout, ce que nous espérons avoir, c'est une utilisation démocratique des ressources naturelles.
Des propos recueillis par Serge Jubin.
Merci d'être toujours avec nous sur RJB, 18h09.
Sport. Le HCBN défile un des favoris pour le titre ce soir en National League. Les hockeyeurs célandais seront à Zurich, coup d'envoi à 19h45. Ils tenteront de rester invaincus et en tête du classement après avoir décroché 2 victoires lors des 2 premiers matchs. Zurich-Bienne, match à suivre en direct dès 19h30 sur RJB avec Loïc Georgi. Young Boys monte sur la scène ce soir et même la grande scène. Les footballeurs bernois entament la phase de groupe de la Ligue des Champions à domicile contre le Red Bull Leipzig sur le coup des 18h45. Ils devront ensuite en découdre avec l'étoile rouge Belgrade et le tenant du trophée Manchester City. Un sacré programme qui commence donc face au troisième du championnat d'Allemagne. Directeur sportif d'IB, Steve von Bergen considère le Red Bull Leipzig avec beaucoup de respect.
Je crois qu'on a une montagne devant nous, ce ne sera pas la seule dans ce groupe-ci, mais Leipzig, il y a moins d'un mois, encore mis 3-0 Bayern Munich en finale de Supercoupe, donc ça plante un petit peu le décor. On sait qu'on va avoir affaire à une grosse, grosse équipe, mais bon, on est dans la plus grande des compétitions, donc on sait, les joueurs veulent toujours jouer contre les meilleures équipes, ils sont servis cette année.
Donc des Allemands favoris, vous le dites, mais à vous entendre, on a l'impression que tout va se jouer sur la double confrontation contre l'étoile rouge Belgrade, c'est le cas ?
Oui, parce que je pense vraiment que City et Leipzig sont en-dessus. Ensuite, quand tu rentres sur le terrain, on l'a vu à Berne, on a aussi réussi à faire un ou l'autre exploit, à battre la Juventus de Turin, à tenir peut-être Valence et même Manchester United en échec. Sur notre synthétique à la fin, parce que c'est ça qui dérange le plus ces équipes-là, c'est clair qu'on va essayer de jouer notre coup à fond et ça commence dès ce soir.
Steve von Bergen répondait aux questions de Damien Piscopiello. Young Boys Red Bull Leipzig, un match à suivre à 18h45. Et Victoria Golubic s'est qualifiée cet après-midi pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA de Canton. La Zurichoise s'est défaite de la Canadienne Rebecca Marino en deux manches, 6-4, 6-3. Elle affrontera au tour suivant la baloise Rebecca Masarova, qui avait représenté la Suisse jusqu'en 2018 avant d'opter pour l'Espagne. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition. Prochain rendez-vous à l'antenne avec l'information, c'est dans le flash de 18h30. Je vous souhaite une très belle soirée.